La parabole des talents est souvent lue comme l'illustration d'un principe de responsabilité. Il faut faire fructifier ce que Dieu nous a confié et qui ne nous appartient pas. Celui qui a reçu le plus doit faire le plus. Il a une plus grande responsabilité parce qu'il lui a été beaucoup confié. Et ses talents sont ainsi souvent montrés, non pas comme une chance pour le loisir de ceux qui en bénéficient, mais plutôt comme une charge. Et il y aurait là une insistance sur le devoir que nous avons vis-à-vis de Dieu et de ce qu'il nous a donné, nous qui sommes appelés à gérer les biens de notre Maître. Et ce Dieu de la parabole semble très exigeant. Il demande beaucoup, puisqu'il est vrai que le texte dit que les talents sont donnés à chacun selon sa capacité. Or, celui qui en a reçu 5, ce qui correspond à ce qu'il peut gérer, se retrouve à la fin avec le devoir de gérer 10 talents et en plus le talent de celui qui ne voulait rien faire, ce qui devient considérable. Cette lecture, bien sûr, n'est pas mauvaise en soi. Et elle a au moins un avantage, c'est qu'elle permet de gommer l'apparent scandale de ce talent ôté aux plus pauvres qui n'en avaient qu'un seul pour le donner aux plus riches. En effet, il ne s'agirait pas de donner encore plus de favoritisme aux riches, mais plutôt de donner une charge supplémentaire à celui qui en faisait déjà beaucoup. Cependant, je crois que cette lecture trahit le texte. En effet, on peut être attentif au fait que le texte ne dit jamais que le maître confie les talents, mais bien qu'il les donne. Et à la fin, d'ailleurs, il ne les reprend pas, sauf aux mauvais serviteurs. Ils sont bel et bien donnés. Et on peut alors comprendre l'erreur du mauvais serviteur comme étant de ne pas s'être senti vraiment propriétaire du don. Il n'a pas accepté le don. Quand le maître revient, il rend le talent en disant « Prends ce qui est à toi ». En quelque sorte, il est le seul à avoir refusé le cadeau de son maître. Or, le retour du maître ne visait pas apparemment à reprendre les talents, ni même à faire rendre des comptes, mais à écouter leur compte-rendu. Les serviteurs sont ainsi fiers de montrer à leur maître ce qu'ils ont fait de leur cadeau et ce qu'ils ont pu réaliser avec, pour leur profit personnel d'une certaine façon, parce qu'ils ont fait comme si ces talents étaient à eux. Il y a donc 2 logiques qui s'affrontent dans cette parabole. L'une qui est celle du don, qui conduit à la surabondance et à la joie, et l'autre qui est celle de la dette, qui conduit aux ténèbres et à l'exclusion. Le fait est que ce qui va perdre le mauvais serviteur, c'est plus sa théologie que son incapacité à bien gérer un talent. Ce serviteur ne pouvait pas croire au don, malgré le geste explicite du maître. Et il pensait que Dieu était un homme dur, moissonnant où il n'avait pas semé. Il avait, comme il le dit, peur de Dieu, qu'il voyait, à tort, comme un maître exigeant, pouvant punir, et utilisant ses serviteurs pour son propre service, pour faire à sa place ce qu'il aurait dû faire lui-même. Là est l'erreur grave et fondamentale. En fait, dans la logique de ce mauvais serviteur, il ne pouvait pas croire au don gratuit, restant dans une logique de la dette. Or, cette logique de la dette, elle est catastrophique, autant pour ce qui est de notre relation à Dieu que pour ce qui est de notre relation aux autres. Elle conduit à la peur, au jugement, à la violence, à la haine et à la mort. Or, croire dans la grâce, c'est croire que l'on peut vivre autrement, non plus dans le sentiment de devoir, mais dans le sentiment de l'amour. Et c'est vraiment accepter de recevoir, c'est savoir aussi donner, c'est être dans la logique de la gratuité, la logique du don et du pardon. Je crois que là est la seule manière de sortir de cette logique délétère de la dette. Et c'est ce que nous demandons tous les jours, d'ailleurs, dans le Notre Père. Quand nous disons « Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent », nous demandons à Dieu de nous libérer de ces sentiments de devoir vis-à-vis de lui et de devoir vis-à-vis des autres, sentiments qui polluent nos relations entre nous et nos prochains. Or, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons réellement libres. Le mauvais serviteur ne pouvait pas comprendre qu'on lui donne sans qu'il ne doive rien. Il ne pouvait pas apparemment intégrer la gratuité. Il ne comprenait pas la raison du don. En fait, ce qui lui manquait, c'était peut-être de croire dans l'amour. Parce que l'amour, en effet, c'est la seule raison possible du don du maître. Si le maître a vraiment donné, ce n'est pas pour reprendre ensuite ou pour juger ce que l'on aurait fait du cadeau. Sinon, ça ne serait pas vraiment un don. Quand quelque chose est donné, cela appartient au nouveau propriétaire qui a la liberté d'en faire ce qu'il veut. Sinon, ce n'est plus vraiment un cadeau, ce n'est pas vraiment donné. Et la seule raison que l'on puisse trouver au don, c'est l'amour. Pourquoi Dieu veut-il que nous prospérions ? Veut-il que nous soyons heureux ? Tout simplement parce qu'il nous aime. Dieu n'attend pas de nous que nous nous rendions malheureux pour lui, que nous sacrifions tout pour lui. Mais parce qu'il nous aime, il veut notre bonheur. Il veut notre épanouissement. Parce qu'il nous aime, il se réjouit de nos réussites. Il se réjouit de nos progrès, de notre propre joie. Et en faisant notre travail, en développant notre propre vie, nous allons dans le sens même de la création de Dieu, parce que Dieu aime sa création et qu'il a de la considération pour elle. C'est là que se trouve, je crois, la clé de la juste compréhension de ce que l'on appelle la grâce, c'est-à-dire le don gratuit de Dieu. On sait que les églises issues de la Réforme ont toujours beaucoup insisté sur cette notion de grâce. Or, cette idée de grâce peut être mal comprise et elle peut donner à des attitudes très diverses. Une des plus paradoxales et calamiteuses est sans doute le puritanisme. Quand cette prédication de la grâce a fait naître une sorte de scrupule pathologique, un sens infini du devoir, rendant finalement toute joie et toute vie impossible. L'erreur du puritanisme ne résidait pas dans le fait de ne pas croire assez à la grâce, mais de mal y croire, et en fait de ne pas voir le don comme un vrai don, mais comme une sorte d'avance qui nous imposerait des devoirs. Dans cette logique perverse, si Dieu nous donne le salut, alors que nous n'aurions encore rien fait pour le mériter, il faudrait que nous arrivions à en être dignes a posteriori. Sinon, nous aurions manqué à notre devoir. Or, le don n'est pas une avance. Dieu ne nous donne pas par avance pour mieux nous coincer ensuite ou pour mieux nous rendre redevables à son égard. Si Dieu nous a donné, c'est pour une raison simple, c'est qu'il nous aime. Dieu a donc ses raisons. Et ce n'est pas à nous à donner ensuite raison à Dieu de nous avoir offert. Il faut croire que Dieu nous a vraiment aimés, qu'il nous a vraiment donnés. Et ce don n'est pas pour nous écraser de devoirs, mais il est pour nous libérer et pour nous donner la joie. Il est vrai néanmoins que dans la parabole des talents, chacun des bons serviteurs s'est montré à la hauteur de l'attente, puisqu'ils ont réussi à faire fructifier positivement leurs dons, même si c'était en fin de compte pour eux. Une question que l'on se pose souvent est de savoir quelle aurait été l'attitude du maître devant un serviteur qui aurait essayé de faire fructifier et qui, en ratant, aurait tout perdu. Eh bien, la réponse se trouve dans une autre parabole, celle dite du fils prodigue, en Luc 15. Cette parabole aussi nous montre un maître qui donne sa part à l'un de ses fils. Il la lui donne sans rien lui demander, sans lui demander ce qu'il en fera ensuite, sans lui dire « faisons bon usage », il la lui donne. Or, ce fils va finalement tout dépenser. Il ne lui restera rien. Et il sera, en fin de compte, accueilli à bras ouverts par son père, qui ne lui reprochera rien et qui fera une grande fête pour son retour. La seule chose qu'attendait le père, c'était qu'il revienne vers lui, qu'il reste dans sa présence. De même que ce que Dieu attend de nous, c'est peut-être seulement, selon cette belle formule du prophète Michée, de marcher humblement avec son Dieu. En fin de compte, avec ces deux paraboles, nous avons tous les modes possibles, bons ou moins bons, de relation à Dieu. Il y a le refus de la grâce, comme don gratuit d'amour, à l'image du mauvais serviteur des talents, ce qui conduit à l'aigreur, à l'agressivité et à la peur, et finalement à ne rien faire. Il y a le sens exacerbé du devoir, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, ce qui le conduit à une absence de joie, à la sévérité et au jugement des autres. Il y a aussi l'usage inconséquent de la grâce, comme le fils prodigue dans sa mauvaise période, qui, profitant de sa liberté pour prétendre à l'autonomie, se coupe de Dieu et dilapide le don. Et puis il y a le bon usage de la grâce, qui consiste à en profiter dans la fidélité à Dieu, dans la joie, dans la liberté, dans la reconnaissance et dans la fécondité. Finalement, il semble qu'il y ait beaucoup de modes de relation à Dieu possibles et que seulement un puisse mener véritablement à l'épanouissement et à la joie. C'est ce qu'essaye de montrer, je crois, le concept même d'alliance, si cher à la Bible. L'idée d'une alliance entre Dieu et l'homme est en soi une chose fort curieuse. En effet, l'alliance est un contrat, c'est un partenariat entre deux puissances qui se respectent mutuellement. Une alliance ne se fait pas entre quelqu'un qui serait tout et un autre qui ne serait rien. Il faut que chaque partie ait une valeur propre et reconnue. L'idée de l'alliance suppose aussi une collaboration dans laquelle chacun apporte ce qu'il peut sans qu'il y ait d'écrasement d'une des parties ni de confusion entre ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre. Dans une alliance réussie, ce qui profite à l'un profite aussi à l'autre. Ainsi, l'alliance, ce n'est pas un asservissement d'une des parties à l'autre. Et si nous sommes dans une alliance avec Dieu, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être rien pour que lui soit tout, mais que nous travaillons en synergie. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu nous appelle à être ses partenaires, ses vis-à-vis, ni ses esclaves, ni ses larbins, ni ses serviteurs inféodés et tremblants devant une sanction ou une tâche insurmontable. L'homme a une vraie valeur et il peut, je crois, apporter à Dieu quelque chose par son travail, par son œuvre dans le monde, par ce qu'il sait faire. Et c'est cela qui est bon. Et si quelque chose est bon pour l'homme, si quelque chose est bon pour moi, alors c'est bon pour Dieu aussi. Dieu, de son côté, il apporte à l'homme tout ce qu'il peut lui apporter, c'est-à-dire l'aide, la force, l'amour, le conseil, la liberté et la joie. Le seul devoir que nous avons peut-être, c'est de rester dans l'alliance, de rester dans la relation avec Dieu, dans ce partenariat fondamental. Et les mauvais exemples de nos deux paraboles sont autant de manières de sortir de l'alliance. Il y a le mauvais serviteur qui ne veut rien avoir en commun avec son maître et qui finalement ne travaille pour personne, ni pour lui, ni pour Dieu. Il y a le fils prodigue qui prend les cadeaux de Dieu mais qui s'éloigne de lui pour prétendre à vivre sa vie tout seul. C'est ça qui est mauvais, et non pas qu'il ait pris le cadeau ou qu'il l'ait dépensé. Et enfin, le fils qui, lui, est resté dans la maison, non pas comme un partenaire de l'alliance, mais comme n'étant rien, pas même un partenaire pour Dieu, vivant dans la fusion avec son père. C'est lorsque chacun est à sa place que le don de la grâce peut s'épanouir. et que la liberté peut devenir productive, positive et créatrice. Je crois que, malgré les apparences, nous, aujourd'hui, avons peur de la liberté. Quand le Christ dit « Ma vérité vous rendra libre », nous ne le croyons qu'à moitié. Et certains pensent que nous sommes libres de vivre dans la soumission totale à Dieu ou de mourir. Mais ce n'est pas cela la liberté. La liberté que donne le Christ est réelle, de même que le don de sa grâce est un vrai don, totalement gratuit. Nous n'avons pas à payer, ni par avance, ni après. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté et dans la joie, motivés non pas par la crainte de manquer à un prétendu devoir, mais motivés par la reconnaissance. La grâce, ce n'est ni une menace, ni une charge, ni une responsabilité, mais un viatique, un moteur, une énergie, une force. La notion même de devoir est mauvaise, parce qu'elle se situe en bout de chaîne de notre vie. Le Christ ne nous écrase pas de devoir, mais il nous invite en amont à changer nos cœurs, à nous convertir, à accepter la grâce et à vivre de la grâce. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ou encore, le but du commandement, dit-il, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen.